Chapitre 19. Gorgeret perd la tête. La conversation de monsieur et madame Gorgeret fut orageuse. Zozote, ravie de trouver une occasion d'aiguiller la jalousie de son mari vers un personnage en quelque sorte imaginaire et fabuleux, fut assez cruelle pour attribuer à ce personnage toutes les qualités d'un gentleman raffiné, courtois, délicat dans ses procédés, plein d'esprit et de séduction.
« Le prince charmant, quoi ?»«
Mieux que ça !»«
Mais je te répète que ton prince charmant n'est autre que le sieur Raoul, l'assassin du grand Paul et le complice de Clara la Blonde. Oui, c'est avec un assassin que tu as passé la nuit. »
Un assassin? Oh, mais c'est très amusant ce que tu me dis là. J'en suis ravi.
Coquine!
Est-ce ma faute? Il m'a enlevé.
On n'enlève que qui veut bien être enlevé. Pourquoi l'as-tu suivi dans son auto? Pourquoi es-tu monté chez lui? Et pourquoi as-tu avalé des cocktails?
Ah ben j'en sais rien. Il a une façon d'imposer sa volonté. On peut pas lui résister.
Et voilà, voilà, tu lui as pas résisté, tu en fais l'aveu.
Il m'a rien demandé du tout.
Eh oui, n'est-ce pas? Il s'est contenté de te baiser la main. Eh bien, je te jure Dieu que Clara va payer pour lui. Je vais lui secouer les puces à celle-là, et sans douceur.
Gorgeret partit dans un état d'exaspération qui le faisait gesticuler en pleine rue et parler à haute voix. Ce diabolique personnage le mettait hors de lui. Il était persuadé que l'honneur de sa femme avait subi des dommages sérieux et que, en tout cas, la coupable aventure se poursuivrait. La meilleure preuve n'en était-elle pas que Zozote prétendait n'avoir pu reconnaître le quartier où il demeurait? Est-il admissible qu'on ne recueille aucune indication sur un itinéraire suivi deux fois? Son collaborateur flamand l'attendait à la police judiciaire et lui apprit que le parquet ne devait procéder au premier interrogatoire que dans la journée, lorsque Gorgeret aurait fourni de nouveaux éléments d'information.
« Parfait. L'ordre est catégorique, hein? Allons relancer la petite flamand. Il faut qu'elle bavarde. Sans quoi... »
Mais l'ardeur combative de Gorgeret devait fondre tout à coup, en face du spectacle le plus extraordinaire et le plus imprévu. Une adversaire absolument transformée, aimable, souriante, enjouée, docile au point qu'il se demanda si depuis l'avant-veille, elle n'avait pas joué toute une comédie de défaillance et de protestation. Elle était assise sur une chaise, sa robe bien arrangée, sa chevelure bien mise en valeur, et elle lui fit l'accueil le plus cordial.
« Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur Gorgeret ?»
L'élan furieux qui avait amené Gorgeret l'eût contraint à l'invective et à la menace au cas où elle n'aurait pas répondu. Mais la réplique de l'adversaire le déconcerta.
« Monsieur l'inspecteur, je suis entièrement à votre disposition. Étant donné que dans quelques heures je serai libre, je ne veux pas vous faire de la peine plus longtemps. » Tout d'abord,
une idée affreuse envahit Gorgeret. Il observa profondément la jeune fille.
Vous avez communiqué avec Raoul. Vous savez qu'il n'est pas arrêté. Vous savez que le grand Paul n'est pas mort. Raoul a promis de vous sauver.
Il était bouleversé et il mendiait pour ainsi dire une protestation. Elle ne la fit pas.
« Peut-être, ce n'est pas impossible. Cet homme est si prodigieux. »«
Si prodigieux qu'il soit, ça n'empêche pas que je te tiens, Clara, et que tu es bien perdue. »
La jeune fille ne répondit pas aussitôt, mais elle le regarda avec beaucoup de dignité.
« Monsieur l'inspecteur, je vous demande de ne pas me tutoyer et de ne pas profiter de ce que je suis en votre pouvoir. » Il y a entre nous un malentendu qui ne doit pas se prolonger davantage. Je ne suis pas celle que vous appelez Clara. Je m'appelle Antonine.
Antonine ou Clara, c'est kiff-kiff.
Pour vous, monsieur l'inspecteur, mais pas en réalité.
Alors quoi, Clara n'existerait pas ?
Si, elle existe, mais ce n'est pas moi.
Gorgeret ne saisit pas la distinction. Il pouffa de rire.
Voilà donc le nouveau système de défense. Il ne vaut pas un clou, ma pauvre demoiselle. Car enfin, il faut s'entendre. Est-ce vous, oui ou non, que j'ai suivi de la gare Saint-Lazare au quai Voltaire ?
Oui.
Est-ce vous que j'ai aperçu près de l'entresol du sieur Raoul ?
Oui.
Est-ce vous que j'ai surprise dans les ruines de Volnic ?
Oui.
Et alors, nom de Dieu, est-ce vous qui êtes en face de moi à la minute présente ?
C'est moi.
Donc ?
Donc, ce n'est pas Clara, puisque je ne suis pas Clara.
Gorgeret eut le geste désespéré d'un acteur de vaudeville qui s'empoigne la tête à deux mains.
Je ne comprends pas.
Antonine sourit.
Monsieur l'inspecteur, si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne voulez pas envisager le problème tel qu'il se pose. Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup réfléchi, moi, et j'ai compris. Et c'est pourquoi je me suis tue.
Dans quelle intention ?
Pour ne pas contrarier l'action de celui qui m'a sauvé de votre persécution inexplicable, deux fois le premier jour et une troisième fois à Volnic.
Et une quatrième fois au Casino Bleu, hein, ma petite ?
Ah, cela, non, c'est l'affaire de Clara. De même que le coup de couteau donné au grand Paul.
Une lueur passa dans les yeux de Gorgeret. Lueur fugitive. Il n'était pas encore mûr pour la vérité, que la jeune fille, d'ailleurs, par malice, ne lui exposait pas avec beaucoup de clarté.
Concluons, monsieur l'inspecteur. Depuis mon arrivée à Paris, j'habite l'hôtel-pension des Deux Pigeons, à l'extrémité de l'avenue de Clichy. Au moment où le grand Paul a été frappé, c'est-à-dire exactement à 6 heures du soir, je causais encore avec la patronne de l'hôtel avant d'aller prendre le métro. J'invoque expressément le témoignage de cette personne, et aussi le témoignage du marquis d'Erlemont.
Il est absent.
Il rentre aujourd'hui. C'est ce que je venais annoncer à ses domestiques quand vous m'avez arrêté une demi-heure après le crime.
Gorgeret éprouvait une certaine gêne. Sans un mot, il passa dans le cabinet du directeur de la police judiciaire qu'il mit au courant de la situation.
« Téléphonez, Gorgeret, à l'hôtel des Deux Pigeons !»
dit le directeur. Il obéit. Le directeur et lui prirent chacun un récepteur, et Gorgeret demanda
« L'hôtel des Deux Pigeons, ici la préfecture de police. Je voudrais savoir, madame, si vous avez parmi vos pensionnaires une demoiselle Antonine Gauthier. »
« Oui, monsieur. »
« Arrivé quand ?»«
Une seconde, je consulte le registre. Arrivé le vendredi 4 juin. »
Gorgeret dit à son chef.
« C'est bien la date. » Elle s'est absentée ?
5 jours. Elle est revenue le 10 juin.
La date du Casino Bleu. Et le soir de son retour, madame, elle est sortie ?
Non, monsieur. Mademoiselle Antonine n'est pas sortie un seul soir depuis qu'elle est chez moi. Quelquefois avant le dîner. Le reste du temps, elle cousait dans mon bureau.
Actuellement, elle est à l'hôtel ?
Non, monsieur. Avant-hier, elle m'a quitté à 6h15 pour aller prendre le métro. Elle n'est pas rentrée et ne m'a pas prévenue, ce qui m'étonne beaucoup.
Gorgeret raccrocha le téléphone. Il était assez déconfit.
Je crains que vous n'ayez été un peu vite, Gorgeret. Courez donc jusqu'à cet hôtel, perquisitionnez dans la chambre. Moi, je vais convoquer le marquis d'Erlemont.
Les recherches de Gorgeret n'amenèrent aucune découverte. Le très modeste trousseau de la jeune fille était marqué aux initiales A.G. Un extrait de son acte de naissance portait le nom d'Antonine Gauthier, père inconnu, né à Lisieux.
Nom de Dieu, nom de Dieu!
Gorgeret passa 3 heures cruelles. Il ne put avaler le repas qu'il prit avec Flamand. Il était incapable d'exprimer une opinion raisonnable. Flamand le remontait avec commisération.
« Voyons, mon vieux, vous bafouillez. Si Clara n'a pas fait le coup, vous obstinez pas. »«
Ainsi, triple idiot, tu admets que ce n'est pas elle qui a fait le coup ?»«
Si, c'est elle. »«
C'est elle qui dansait au Casino Bleu. »«
C'est elle. »
Alors, comment expliques-tu, primo, qu'elle n'ait pas découché le soir du Casino Bleu? Secondo, qu'elle se trouvait aux deux pigeons tandis qu'on poignardait le grand Paul?
Je n'explique pas. Je constate.
Tu constates quoi?
Que l'on ne peut rien expliquer.
Pas un instant, ni Gorgeret ni Flamand ne songèrent à séparer Antonine de Clara. À 2h30, le marquis d'Erlemont se présenta et fut introduit dans le bureau du directeur, qui s'entretenait avec Gorgeret. C'est en revenant du Tyrol suisse, la veille au soir, que Jean d'Erlemont avait appris par les journaux français le drame qui s'était déroulé dans son immeuble, l'accusation lancée par la police contre son locataire, M. Raoul, et l'arrestation d'une demoiselle Clara.
Je croyais trouver à la gare une jeune fille, Antonine Gauthier, qui est ma secrétaire depuis quelques semaines, et qui était prévenue de l'heure exacte de mon arrivée. D'après ce qu'ont dit mes domestiques, j'ai cru comprendre qu'on mêlait cette personne à l'affaire.
Ce fut le directeur qui répondit.
Cette personne est en effet à la disposition de la justice.
Donc, arrêtée.
Non, tout simplement à la disposition de la justice.
Mais pourquoi?
D'après l'inspecteur principal Gorgeret, chargé de l'affaire du Grand Paul, Antonine Gauthier n'est autre que Clara la Blonde.
Le marquis fut abasourdi.
Hein? Antonine serait Clara la Blonde? Mais c'est fou! Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie sinistre? Je demande qu'on libère immédiatement Antonine Gauthier, avec toutes les excuses qu'on lui doit pour l'erreur dont elle est la victime, et dont une nature comme elle a dû souffrir infiniment.
Le directeur observa Gorgeret. Celui-ci n'avait pas sourcillé. Sur le regard mécontent de son supérieur, il se redressa et s'approcha du marquis.
« Ainsi, monsieur, vous ne savez rien sur le drame en lui-même. »«
Rien. »«
Vous ne connaissez pas le grand Paul ?»
Jean d'Erlemont pensa que Gorgeret n'avait pas encore établi l'identité du grand Paul.
« Non. »«
Vous ne connaissez pas Clara la Blonde ?»«
Je connais Antonine, et je ne connais pas Clara la Blonde. »«
Et Antonine n'est pas Clara ?»
Le marquis haussa les épaules et ne répondit pas.
Un mot encore, monsieur le marquis. Durant le petit voyage que vous avez fait à Avolnik avec Antonine Gauthier, vous ne l'avez pas quittée?
Non.
Et par conséquent, comme j'ai rencontré Antonine Gauthier au château de Volnik, vous y étiez ce jour-là.
D'Erlemont était pris au piège. Il ne put biaiser.
J'y étais.
« Pouvez-vous me dire ce que vous y faisiez ?»
Le marquis eut un moment d'embarras.
« J'y étais comme propriétaire. »«
Quoi ? Comme propriétaire ?»«
Certes, j'ai acheté le château il y a 15 ans. »
Gorgeret n'en revenait pas.
« Vous avez acheté le château ? Mais personne ne l'a su. Pourquoi cette acquisition ? Pourquoi ce silence ?
Gorgeret pria son chef de vouloir bien l'écouter à part, et le poussant vers la fenêtre, il lui dit tout bas
Tous ces gens-là sont de mèche pour nous fourrer dedans, chef. Il n'y avait pas que cette jolie blonde au château de Volnic. Il y avait Raoul.
Raoul ?
Oui, je les ai surpris ensemble. Donc, vous voyez, chef, le marquis d'Erlemont, la fille blonde et Raoul, autant de complices. Mais il y a mieux.
Quoi ?
Le marquis fut jadis un des spectateurs du drame de Volnic, où la chanteuse Elisabeth Ornain fut assassinée et volée.
Bigre, ça se corse.
Gorgeret se pencha davantage.
Il y a mieux encore, chef. J'ai fini par trouver hier le dernier logement que le grand Paul occupait à l'hôtel, et où il a laissé sa valise. Et j'ai fait dans ses papiers deux découvertes de la plus grande importance, dont j'attendais le résultat pour vous en parler. Tout d'abord, le marquis était l'amant d'Elisabeth Ornain, et il n'a rien dit à l'instruction. Et pourquoi ? Ensuite, le vrai nom du grand Paul est Valtex. Or, Valtex était le neveu d'Elisabeth Ornain. Et Valtex, je m'en suis informé, venait souvent rendre visite au marquis d'Erlemont. Et qu'en dites-vous ?
Le directeur semblait fort intéressé par ces révélations.
L'affaire change d'aspect. Et je crois que nous devons, nous, changer de tactique. Nous aurions tort de nous heurter de front au marquis. Pour l'instant, mettons hors de cause cette Antonine. Et faites sur l'ensemble de l'affaire et sur le rôle que le marquis a pu y jouer une enquête approfondie. N'est-ce pas votre avis, Gorgeret ?
Entièrement, chef. Nous n'arriverons à Raoul que si nous commençons à céder d'abord du terrain. Du reste...
Du reste ?
J'aurai peut-être autre chose à vous annoncer.
La libération fut immédiate. Gorgeret prévint d'Erlemont qu'il irait le voir d'ici 5 ou 6 jours pour solliciter de lui quelques renseignements et le conduisit jusqu'à la chambre d'Antonine. En voyant son parrain, celle-ci se jeta dans ses bras en riant et en pleurant à la fois. Gorgeret ronchonna entre ses dents
« Cabotine !»
Ainsi, au milieu de cette journée, Gorgeret avait repris complètement possession de lui-même. À mesure que certains éléments de la vérité lui apparaissaient et qu'il en faisait part à son chef, il retrouvait un cerveau capable de raisonner selon sa méthode ordinaire. Trêve qui ne dura point. Un nouvel incident démolit presque aussitôt l'édifice reconstruit. Soudain, il entra dans le bureau du directeur sans même avoir frappé. Il semblait atteint de folie. Il agitait un petit calepin vert dont il essayait, en tremblant, de désigner du doigt certaines pages et il bégayait
« Nous y sommes ! Oh, quel coup de théâtre ! Comment aurait-on pu se douter ? Et cependant, tout devient clair !»
Son supérieur essaya de le calmer, mais il se contint tant bien que mal.
Je vous avais annoncé autre chose de possible. Voilà. J'ai trouvé ce calepin dans la valise du grand Paul. Ou plutôt, de Valtex. Des notes sans importance. Des chiffres, des adresses. Et puis, de place en place, une phrase effacée à la gomme et mal effacée. Donc, des phrases importantes, celles-là. Je les ai données hier à déchiffrer au service de l'identité judiciaire. Or, parmi elles... Il y en a une qui n'a pas de prix. Celle-ci, tenez, que le service a transcrite en dessous. Et de fait, avec un peu d'attention, on se rend très bien compte.
Le directeur saisit le carnet et lut la notation reproduite. Elle était ainsi conçue. Adresse de Raoul, 27, avenue du Maroc, à Auteuil. Se défier d'un garage qui ouvre par derrière. Pour moi... Raoul n'est autre qu'Arsène Lupin. À vérifier.
Pas de doute, chef. C'est le mot de l'énigme. C'est la clé du coffre. Quand on a cette clé-là, tout s'ouvre. Tout s'éclaircit. Il n'y a qu'Arsène Lupin pour monter une machine de ces dimensions. Il n'y a que lui qui peut nous tenir ainsi en échec et se foutre de nous. Raoul, c'est Arsène Lupin.
Et alors?
J'y cours, chef. Avec ce coco-là, pas une minute à perdre. La petite est relâchée. Il doit le savoir déjà. Il va décamper. J'y cours.
Prenez des hommes.
Il m'en faut 10.
20, si vous voulez. Au galop, Gorgeret.
Oh oui, chef. L'attaque brusquée et du renfort, hein. L'alerte générale.
Il empoigna Flamand, cueillit 4 agents au passage et sauta dans une des autos qui stationnait le long de la cour. Une autre auto partit derrière la sienne, chargée de 6 agents, et une troisième. En vérité, ce fut une mobilisation effarée. Toutes les cloches auraient dû sonner le tocsin, tous les tambours rouler, tous les clairons faire appel, toutes les trompes et toutes les sirènes hurler le signal de l'assaut. Dans les couloirs, dans les bureaux, d'un bout à l'autre de la préfecture, on s'apostrophait. « Raoul, c'est Arsène Lupin! Arsène Lupin, c'est Raoul !» Il était un peu plus de 4 heures. De la préfecture de police à l'avenue du Maroc, il faut, à toute vitesse, mais en tenant compte des encombrements, 15 bonnes minutes.